poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Nous commençons cette émission avec l'annonce de conférences, de concerts et autres rassemblements. L'émission se poursuit avec une information sur le calendrier écuménique de prière, puis sur le programme écuménique d'accompagnement des églises en Palestine-Israël. C'est ensuite une information concernant le prochain synode national de l'Église protestante unie de France et sur l'Église universelle. Nous terminons avec l'annonce d'une belle exposition sur André Chanson à Carré d'Art à Nîmes. Information locale. À Nîmes, la maison du protestantisme est située tout près de la Maison Carrée. Son adresse exacte, c'est 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Son numéro de téléphone, c'est le 04 66 67 97 40. Et son adresse mail, mdp.nimes@free.fr. La maison du protestantisme vous accueille le matin du mardi au vendredi de 9h30 à midi, l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à midi. Une rencontre exceptionnelle aura lieu jeudi 30 avril à 19h à la Maison du protestantisme. Il s'agit d'une rencontre avec Abdel Fattah Aboutrour, qui est directeur et fondateur du centre culturel Al-Rouad, lequel est situé dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda, à Bethléem. Le témoignage portera sur la situation actuelle en Cisjordanie, mais aussi sur la situation du camp d'Aïda et sur l'incroyable activité menée par le centre Al-Rouad. C'est donc jeudi 30 avril à 19h à la Maison du protestantisme. Association protestante d'assistance. Un concert au profit des actions de solidarité de l'Association protestante d'assistance. C'est la chorale Chœur Gospel de Triel sur Seine, dirigée par Jackie Weber, qui est chef de chœur professionnel, qui donnera ce concert le vendredi 8 mai à 20h au Temple de l'Oratoire. Entrée libre à prix conscient, c'est donc le vendredi 8 mai à 20h au Temple de l'Oratoire. Au même temple de l'oratoire, mais le dimanche 10 mai, c'est Evert van de Pol qui donnera un concert de piano avec des œuvres de Mozart, de Chopin, de Liszt et de Debussy. Entrée libre, participation aux frais, donc dimanche 10 mai à 17h au temple de l'oratoire. Comité interreligieux Nîmois. Le dimanche 10 mai prochain, le comité interreligieux Nîmois a le plaisir de nous inviter toutes et tous à un repas fraternel autour d'un couscous. La rencontre commencera à partir de 16h avec un thé d'accueil, puis il y aura des animations, et enfin vers 18h, le couscous, avec une libre participation aux frais. Cette rencontre aura donc lieu à la salle des fêtes de Millau, 6 rue Berthaud. Le dimanche 10 mai prochain. Conseil écuménique des églises. Le calendrier écuménique de prière. On peut retrouver toutes les semaines ce calendrier sur le site internet du Conseil écuménique des églises, mais aussi dans certaines publications comme Parole pour tous. Les textes de prière proposés sont basés sur la publication Prière des pèlerins, un cycle de prières écuméniques. Le livre et le site internet offrent des aides précieuses pour les prières d'intercession, la prière au nom et en solidarité avec les autres. La réalité de la prière est au cœur même du mouvement œcuménique. Jésus a prié pour que nous, ses disciples, soyons tous un. Lorsque nous prions les uns avec et pour les autres, nous pouvons ressentir le don de l'unité reçu de Dieu. Le calendrier œcuménique de prière nous emmène à travers toutes les régions du monde pendant un an. En priant pour chaque lieu sur la terre et ses habitants au moins une fois par an, nous affirmons notre solidarité avec les chrétiens du monde entier, frères et sœurs vivant dans des situations diverses, connaissant des problèmes divers et partageant les dons divers. Par exemple, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, la prière concernera l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et l'on nous propose de rendre grâce pour la longue histoire du christianisme sur ces terres, les chrétiens et les musulmans restés fidèles à leurs traditions pendant les longues années de répression et de persécution, les évolutions positives qu'ont connues ces pays depuis la fin de la période soviétique, celles et ceux qui œuvrent pour la paix et la réconciliation face aux anciens soupçons et aux vieilles animosités. Divers thèmes d'intercession sont aussi proposés. Programme œcuménique d'accompagnement des églises en Palestine et Israël. En 2002, il y a plus de 23 ans, en réponse à une lettre de responsable d'église locale en Palestine-Israël, appelant à créer une présence internationale dans ce pays, le Conseil œcuménique des églises a mis en place un programme d'accompagnement pour participer à la promotion de la paix dans cette région. Des personnes, hommes et femmes, envoyées par leurs églises, séjournaient quelques mois dans le pays pour accompagner les habitants et signaler injustice et violence. Le programme assure la présence continue de 25 à 30 accompagnateurs et accompagnatrices œcuméniques qui œuvrent sur place pendant 3 mois, accompagnant les populations et les communautés locales, assurant une présence protectrice et témoignant de leurs luttes et espérances quotidiennes. Le programme œcuménique d'accompagnement en Palestine-Israël est guidé par une impartialité de principe. Il ne prend pas parti dans le conflit et ne fait aucune discrimination envers qui que ce soit, mais il n'est pas neutre quant aux droits de la personne et au respect du droit international humanitaire. Originaire de 21 pays du monde entier, les accompagnateurs œcuméniques sont soutenus par une équipe située à Jérusalem. Un groupe de référence locale, représentant les communautés et églises qui ont demandé à bénéficier du programme, contribue à l'orientation de ce dernier, avec l'équipe du Conseil œcuménique des églises à Genève et les coordinatrices et coordinateurs nationaux dans les pays d'envoi. Plus de 2000 accompagnateurs et accompagnatrices œcuméniques ont participé au programme et beaucoup continuent de s'impliquer et de s'intéresser aux actions pour une paix juste en Palestine et Israël. Mais qu'est devenu ce programme ? Voici une information récente à ce propos. Il s'agit d'une interview de M. Iskandar Mailaton, coordinateur local du programme œcuménique d'accompagnement en Palestine-Israël du Conseil œcuménique des Églises. Il nous livre un aperçu des efforts consentis par les accompagnatrices et accompagnateurs pour continuer leur travail en ligne. Pourriez-vous décrire l'importance de l'accompagnement en ces temps d'exacerbation du conflit ? À la suite de l'évacuation des accompagnatrices et accompagnateurs œcuméniques en raison de l'intensification des hostilités, la présence physique de témoins internationaux a dû être interrompue. Pourtant, les communautés que nous servons, les agriculteurs et les communautés de Bédouins et Bédouines des collines au sud d'Hébron, les familles et les écolières et écoliers de Jérusalem et de Bethléem et les communautés de la vallée du Jourdain souffrent toujours d'une vulnérabilité profonde et de pression au quotidien. Comment le programme virtuel permet-il de jeter un pont ? Notre attachement à ces communautés est non seulement enraciné dans une responsabilité programmatique, mais dans une vocation théologique, porter témoignage, être solidaire et affirmer la dignité de toutes les personnes créées à l'image de Dieu. Si le programme d'accompagnement en ligne n'a pas la valeur d'incarnation de la présence physique, il constitue un pont fidèle et nécessaire. Nous cherchons à faire en sorte que ces communautés soient toujours vues et entendues, et à ce que le ministère d'accompagnement, ancré dans la justice, la compassion et la vérité, continue en dépit de la distance physique. Pourriez-vous décrire certains des éléments du programme ? Le programme d'accompagnement en ligne demeure ancré dans l'éthos de l'accompagnement, adapté avec attention au contexte actuel. Parmi ses principales composantes figurent l'engagement virtuel hebdomadaire, l'écoute, la documentation et le témoignage, sans oublier les rapports et le plaidoyer. Dans ses prières, que peut demander la famille œcuménique pour vous soutenir dans votre travail ? Nous demandons en toute humilité à la famille œcuménique de continuer à tenir ce ministère en prière, prier pour la protection, la résilience et l'espérance inébranlable des communautés que nous accompagnons et qui continuent au quotidien de se heurter à l'incertitude et aux épreuves. Prier pour la sécurité et la sagesse de notre personnel sur place, des conducteurs, des accompagnatrices et accompagnateurs œcuméniques qui naviguent dans ces réalités complexes avec courage et discernement. Priez pour l'intégrité et l'efficacité de notre témoignage partagé, pour que la vérité puisse être révélée avec clarté et reçue avec ouverture. En travaillant aux côtés des coordinatrices et coordinateurs nationaux pour partager les histoires et les rapports vérifiés qui ont été recueillis, vous aidez à amplifier les voix de celles et ceux qui luttent pour la justice, l'égalité des droits et la paix. Votre solidarité, sensibilisation et engagement continu auprès des décideuses et décideurs sont essentiels pour appuyer notre mission pour une paix juste. Église protestante unie de France. Le prochain synode national de l'Église protestante unie de France, qui se tiendra à Montbéliard du 14 au 17 mai prochain, aura pour thème « Vivre l'Église universelle ». Rappelons d'abord que, dans le protestantisme, le synode est l'assemblée responsable du gouvernement d'une Église, dans la mesure où elle a adopté le régime presbytéro-synodal, ce qui est le cas pour l'Église protestante unie de France. Des laïcs font partie des synodes protestants, aux côtés des pasteurs. Pourquoi le thème « Vivre l'Église universelle » ? Dans la continuité de la réflexion synodale « Mission » au pluriel « Mission de l'Église et ministère » au pluriel, menée depuis 2022, le volet « Église universelle » a conduit les églises locales et paroisses, puis les synodes régionaux de novembre 2025, à réfléchir sur la définition et leur compréhension de l'Église universelle et à partager leurs expériences et attentes dans ce domaine. Sur la base des résultats de cette enquête et des rapports des synodes régionaux de 2025, le synode national de l'Église protestante unie de France, qui se réunira donc du 14 au 17 mai, traitera de ce thème « Vivre l'Église universelle ». Le service des relations internationales a pour mission d'aider l'Église protestante unie de France à vivre la dimension universelle de l'Église, à en prendre mieux conscience et à donner de la cohérence aux différents engagements de l'Église protestante unie de France dans l'Église universelle. Créer, maintenir, renforcer les liens de l'Église protestante unie de France avec les églises partenaires d'autres pays, principalement luthériennes, réformées et unies, soit à travers des relations bilatérales, soit à travers des organismes internationaux tels que la CEVA, Communauté d'Églises en Mission, le Conseil œcuménique des Églises, la Conférence des Églises protestantes des pays latins d'Europe, accueillir les visiteurs étrangers et organiser des rencontres, nourrir la réflexion de l'Église protestante unie sur les questions internationales et la mission avec le service protestant de mission, DEFAP, promouvoir des temps de formation. Les Églises, comme les croyants, ont besoin des autres pour approfondir leur foi et mieux témoigner face aux défis de notre temps. Le service des relations internationales est également au service des églises locales et des membres de l'Église. L'enjeu est de donner de la cohérence aux engagements de l'Église protestante unie de France dans l'Église universelle. Dans un article paru sur le site internet de l'Église protestante unie de France, Jean-François Zorn, spécialiste de la mission et professeur honoraire d'histoire et de missiologie de l'Institut protestant de théologie à Montpellier, indique « Non, mission intérieure et mission à l'extérieur ne s'opposent pas, elles font corps, et les protestants du réveil du début du XIXe siècle, alors que les églises sortaient affaiblies par la persécution, s'occupaient ardemment des deux types de missions, relevant du même désir de voir l'Évangile se répandre ici comme là-bas. C'est cela l'Église universelle, sans frontières ni dénominationnelles, ni nationales, ni géographiques. Pour vivre l'Église universelle, en 1971, nos églises nationales se sont données par décision synodale deux nouveaux organismes, l'un international, la CEVA, Communauté d'Églises en Mission, et l'autre national, le DEFAP, Service protestant de mission, pour remplacer la Société des missions évangéliques de Paris. Tous deux ont incarné l'action apostolique en lieu et place de la mission, même si ce terme demeurait en sous-titre du DEFAP, Service protestant de mission et de relations internationales. Indication intéressante visant à montrer que les relations établies avec les pays de mission devaient se penser désormais avec les autres pays d'Europe et d'ailleurs. Qu'en est-il aujourd'hui de ce dispositif? En tant qu'historien et missiologue, je pense qu'il doit être repensé et réarticulé, non pas dans le but de faire autre chose, de l'humanitaire ou de l'interculturel, même si c'est important, mais de continuer avec énergie et imagination la mission ici et là-bas. Ensemble, Église du Nord et du Sud. Je ne sais si le synode national prochain est décidé à lancer ce chantier. Personnellement, je le souhaite, car pour moi, vivre l'Église universelle ne peut être que « mission first », la mission d'abord. Sans rapport avec ce qui précède, je voudrais mentionner un article paru dans le dernier numéro de l'hebdomadaire Réforme et dans sa newsletter, par Frédéric Casadesus. André Chanson, Cévenol de toute éternité. Homme de lettres et défenseur des arts, André Chanson compte parmi les plus grands écrivains français du siècle dernier. L'exposition qui s'ouvre au Carré d'art de Nîmes, complétée par la parution de beaux livres, invite à le célébrer. Droiture et solidarité, le prénom de cet écrivain, Andros, prend sa source dans l'Antiquité grecque et signifie « homme ». Pas le quidam, le type qui passe au coin de la rue sans rien voir, non. Le citoyen conscient de son devoir, aussi bien l'enfant des Cévennes épris de culture classique et d'un lyrisme romantique, et oui, c'est à croire que son patronyme peut s'entendre autrement, qu'il joue son rôle dans l'aventure, a-t-il pensé, dès ses premières années, qu'il avait sur cette terre un certain nombre de principes à respecter ? Protestant, nous ne voulons pas verser dans notre péché mignon celui de l'autosatisfaction sous la modestie. Mais enfin, tout de même, André Chanson, que le Carré d'art de Nîmes célèbre jusqu'au 11 juillet, fait partie de ces gaillards dont on peut dire qu'ils ont été, qu'ils restent et resteront des modèles. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10. juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.